présidentielles ont été maillées de violences, les violences sous toutes leurs formes. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que après ces des élections aussi violentes, émaillées de troubles, qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs politiques s'accordent pour aller aux législatives.
La rencontre entre le président Ouattara et son ex-allié Bédié semble vraiment avoir été déterminante dans ce changement de posture de l'opposition. Pour vous, qu'est-ce qui a poussé l'ancien président Bédié à partir aux élections, de même qu'une bonne partie de l'opposition?
Il faut dire que l'opposition ayant échoué dans sa volonté d'empêcher le troisième mandat du président ivoirien, a décidé en réalité de changer de fusil d'épaule, de chercher à obtenir des législatives, ce qu'ils n'ont pas pu, ce que les partis d'opposition n'ont pas pu avoir au travers les différents modes d'ordre de boycott et de désobéissance civile de la dernière élection présidentielle. En réalité, la rencontre dont vous parlez entre le leader de l'opposition aujourd'hui, le président du PDCI-RDA et le président de la République, n'a eu pour d'autre effet que de calmer les différentes tensions qui sont déchaînées depuis l'annonce de la candidature du président de la République pour un troisième mandat. En réalité, c'est tout cela. Sinon, les points de revendication, la plupart sont restés tels, mais je crois savoir que les discussions continuent, les discussions n'ont pas été rompues, et je pense que l'opposition veut rattraper d'une certaine manière l'échec qu'elle a enregistré en voulant s'opposer au troisième mandat du président de la République.
Alors, Mamadou Koumba, la société civile a-t-elle joué un rôle dans cette rencontre entre le président Ouattara et son ex-allié Bédié?
Peut-être que ce que nous avions dit en amont a dû être compris plus tard. Nous, on l'a dit avant les élections, notre souci était de faire en sorte que ces acteurs se parlent. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Et curieusement, après s'être mesuré, on a vu que c'était des rapports de force. Aujourd'hui, ils commencent à retrouver l'intérêt du dialogue, l'intérêt du consensus. Alors, pour nous, c'est une très bonne chose. Donc, la société civile a fait ce qu'elle pouvait. Malheureusement, elle n'a pas été suivie. Et il y a eu les violences que nous avons connues. Donc, nous sommes heureux de constater que ces acteurs reviennent aujourd'hui, qui retrouvent les vertus du dialogue. Mais en réalité, comme l'a dit Tano, c'est de la ruse politique. La ruse, ça ne fait pas long feu. Ça ne fait pas un long chemin. Ils veulent rattraper, effectivement, ce qu'ils n'ont pas pu avoir au cours des élections présidentielles. La preuve, quand vous écoutez tous les candidats de l'opposition, ils disent qu'il faut faire en sorte que Ouattara, le RHDP, ne contrôle le Parlement. Donc il y a toujours une volonté manifeste.
C'est de bonne guerre, pourrait-on dire.
Oui, c'est de bonne guerre. Bon, vous voyez, aujourd'hui, les populations s'interrogent. Les gens qui ont poussé les populations à l'affrontement, juste pour un poste. Et aujourd'hui, subitement, ils n'ont rien obtenu. J'étais au dialogue politique avec eux. Ils n'ont pratiquement rien obtenu. Et ils décident d'aller aux élections et en rang dispersé. Donc, je pense que tout ça, c'est bon pour la formation citoyenne des Ivoiriens.
Alors, Alexis Tano, la majorité parlementaire du pouvoir est-elle menacée avec l'alliance PDCI-FPI et également l'absence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est présentement en France pour des raisons médicales?
Bon, ce n'est pas évident. Je dirais même que l'opposition va beaucoup batailler, va beaucoup, trimer avant de revenir à la hauteur du parti au pouvoir. Parce que déjà, quand vous regardez la représentation, le découpage électoral, quand vous regardez le nombre de candidats présentés sur toute l'étendue du territoire, il n'y a que le parti au pouvoir qui compte tous les postes sans être élu, je le préjuge. Donc, vous comprenez également que dans le nord du pays, et il n'y a pratiquement pas de candidats de l'opposition. Donc, le parti au pouvoir, le rassemblement pour des offertises la démocratie de la paix pas avec une avance assez confortable sur ce terrain. Nous comprenons que l'opposition qui veut rattraper son retard, qui veut avoir le maximum de postes pour contrôler le Parlement, est décidée d'aller aux élections. Par contre, nous ne comprenons pas pourquoi l'opposition n'a pas pu présenter de candidats sur toute l'étendue du territoire, tant est que la volonté de cette opposition est de dominer le Parlement. Là, quand on regarde les calculs mathématiquement, le parti au pouvoir part avec une avance assez confortable.
Monsieur Kouma, on va parler peut-être maintenant des élections elles-mêmes. Comment la société civile prépare-t-elle ces élections pour s'assurer qu'elles se déroulent dans le calme et la transparence?
Pour nous, c'est une mission citoyenne, telle qu'on s'est préparé pour les présidentielles avec l'appui de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons bénéficié d'un appui financier qui nous a permis, grâce à notre maillage territorial, d'observer les élections présidentielles. Et par rapport aux législatives, nous avons décidé, parce que les moyens ne suivent pas toujours, cette fois-ci, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une observation citoyenne sur fonds propres. Et toujours, nous avons une méthodologie en la matière. Nous nous sommes appuyés sur notre maillage territorial. Et cette fois-ci, nous nous sommes appuyés sur nos coordinations régional et quelques bénévoles au nombre de 151 personnes. Et en tout cas, nous avons commencé à observer la campagne.
Et des anomalies
avant.
Vous avez constaté?
Oui, mais de façon générale, nous sommes satisfaits du déroulement. Mais comme vous savez, hein, en politique, la campagne, les choses se font graduellement. Les premiers jours, on constate un calme relatif et les choses se font dans la courtoisie. C'est vrai que par endroits, il y a quelques échauffourées, mais qui n'atteignent pas la dimension, la violence pendant les présidentielles. Donc apparemment, tout le monde semble avoir compris la leçon, que ce qui est important, c'est d'aller à des élections apaisées dans l'intérêt de tous. La preuve, que ce soit le parti, le candidat de l'opposition, que ceux du pouvoir, les choses se font de façon civilisée.
Alexis, quelles sont aujourd'hui les forces en présence sur le terrain? On parle d'une il y a des alliances, mais certains pensent que c'est une opposition qui part en entre dispersée. Quelles sont un peu les forces en présence pour vous?
Oui, quand vous regardez l'unité d'action qu'on a constatée lors de la présidentielle, lors de la lutte contre le troisième mandat, cette unité d'action a volé en éclats. Aujourd'hui, nous assistons à des alliances, dans les alliances qu'on a connues. Il y a le groupe le PDCI et son allié Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et le pays populaire ivoirien légitime, légal du côté d'Afingessa. Il s'est retiré pour s'allier au parti social. Donc vous comprenez que cette unité qu'on avait constatée lors de la présidentielle, cette unité n'existe plus aujourd'hui. Et c'est bien dommageable pour l'opposition qui est en train de faire le lit encore à une victoire écrasante pour le rassemblement des oufouettistes. Quand vous regardez bien sur le terrain, je le disais tantôt, non seulement ils n'ont pas de candidats sur le territoire, ils sont plus encore divisés. Et quand vous regardez, même dans leur propre bastion, il y a des candidatures qui sont doubles pour des partis qui semblent se préoccuper de leur alliance. On voit qu'ils ne semblent pas se préoccuper de leur unité, de la cohésion, de leur cohérence. Donc vous comprenez qu'avec une telle opposition, on ne fait que faire le lit d'une victoire écrasante du parti au pouvoir.
Alors Alexis, est-ce que, et ça c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais est-ce que les électeurs sont vraiment mobilisés pour ces élections législatives? On voit souvent qu'on est plus intéressé aux présidentielles par exemple. Est-ce que cette fois-ci on sent un certain engouement?
Oui, absolument. Et les électeurs sont beaucoup plus motivés, je dirais, parce que la présidentielle avait vu le boycott, donc toute l'opposition n'a pas participé. Cette fois-ci, le FPI, après 10 ans de non-occupation du terrain, qui revient pour participer à sa première élection sous le mandat du président Alassane Ouattara, le PDCI qui ne veut pas du tout perdre une place importante à l'Assemblée nationale, vous comprenez que le terrain va être encore réoccupé et les partis mobilisent aujourd'hui leur participation, leurs partisans. Nous comprenons également du côté du Poitiers au pouvoir, on entend dire qu'il faut donner une majorité confortable au président de la République pour continuer son action. Et en plus, l'autre effet majeur, c'est que aux élections présidentielles, du fait du boycott, nous n'avons pas pu constater le poids réel du parti au pouvoir. Et les candidats du parti au pouvoir lancent des appels afin de consolider cette majorité du président de la République. Donc cette élection législative a plusieurs enjeux. Je pense que les participants, les électeurs citoyens l'ont compris aussi.
D'accord. Alors, avant d'aller en pause, j'ai quand même quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Eric Tiasuma est en Afrique du Sud. Il nous dit les enjeux pour ces élections donc seront la conquête de la majorité parlementaire pour l'opposition. Pour permettre à cette opposition d'avoir certains leviers politiques. Et cette majorité pourra imposer l'ouverture politique, exiger au pouvoir actuel la libération des opposants politiques qui ont été arrêtés arbitrairement et le retour des exilés politiques. Asmaïlou est à Lomé, au Togo. Il nous dit que ces élections se passe dans l'harmonie pour les Ivoiriens, mais je ne soutiens pas l'alliance entre Gbagbo et Bédié. Et puis Archiduc Théodore à N'Djamena au Tchad écrit « Je souhaite que l'alliance PDCI-FPI fasse mouche en gagnant ces législatives, qu'une défaite du parti au pouvoir fasse comprendre au régime en place que le changement est un besoin. » Comme la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, on espère aussi le retour au bercail de Gbagbo. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. La campagne électorale pour les législatives du 6 avril bat son plein en Côte d'Ivoire dans un contexte beaucoup moins tendu que celui qui prévalait lors de la présidentielle d'octobre dernier. L'opposition y participe et l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait effectuer son retour au pays. Des Ivoiriens dans les rues de Boaké au micro d'Aïcha Diarra.
Chez moi aussi, ils sont prêts à rentrer un pays de la République, il n'y a pas de problème. Ils ont leur place. C'est chez eux, ils ont leur place. On a bien de tout le monde. On a bien de tout le monde. Pour ceux qui veulent travailler, on a bien de tout le monde. On n'a pas besoin de ceux qui vont venir mettre le désordre dans le pays. C'est ça qui est notre problème.
Si le FPI revient, que ça peut apporter un changement, un bien-être à la population ivoirienne, je pense bien qu'on peut les laisser faire leur politique sans problème. Pour que nous puissions être.
Laurent Gbagbo a combattu, a fait l'opposition pendant 30 ans, est revenu au pouvoir. S'il peut se réconcilier avec Afinissan pour faire l'opposition et revenir au pouvoir en 2025, tout ce que tu fais, bon, jusqu'en 2025, je pense que ce serait encore avantageux.
Si après 10 ans d'absence pour le PDC, le FPI est revenu au pouvoir et sur la scène politique, je pense que c'est bien indiqué qu'on puisse trouver la paix.
La démocratie. Voilà, merci beaucoup Aïcha Diarra. Et donc, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Abidjan, nous avons Alexis Tano, journaliste et analyste politique, et toujours dans la capitale économique ivoirienne, Mamadou Koumar, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous devions également avoir André-Sylve Collant, qui est journaliste. Malheureusement, des raisons techniques nous ont empêchés de l'avoir avec nous. Alors, Alexis, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Berthe, a annoncé le mois dernier une rencontre prochaine avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, à Bruxelles, pour discuter des modalités de son retour. Est-ce qu'on peut parler de décrispation aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Oui, quand on regarde le parcours ces derniers temps en Côte d'Ivoire, quand on regarde bien la politique ivoirienne qui était tendue jusque-là, jusqu'à la dernière élection présidentielle, oui, on peut affirmer qu'il y a une certaine décrispation, surtout avec la remise du passeport, des deux passeports du président, l'ancien président, M. Laurent Gbagbo. Également, on sait qu'il est beaucoup présent, il compte beaucoup de partisans en Côte d'Ivoire qui réclament son retour. Et récemment, l'opposition ivoirienne a fait de son retour l'un de ses chevaux de bataille. Donc, nous comprenons que le retour de M. Laurent Gbagbo peut constituer une décrispation, surtout que du côté du pouvoir, le président a laissé entendre qu'il est favorable au retour de M. Laurent Gbagbo, qu'à son niveau, rien ne s'oppose au retour de M. Laurent Gbagbo. Je pense que c'est une bonne lancée, c'est une bonne perspective pour la réconciliation en Côte d'Ivoire.
Monsieur Koma, parle-t-on de décrispation en ce moment en Côte d'Ivoire?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une relative décrispation. Je crois que c'est encourageant. Quand on a vu les tensions qui ont existé avant, pendant et après les présidentielles, aujourd'hui, non seulement l'opposition accepte d'aller aux législatives sans grandes conditions, effectivement la remise des deux passeports à Laurent Gbagbo. En tout cas, nous pensons qu'il faut tout faire pour qu'il puisse rentrer, mais de façon digne. Vous savez, notre culture politique est encore fortement marquée par, autour des individus, autour de la tribu, autour de la région. Il faut en tenir compte. Vous ne pouvez pas équilibrer, vous ne pouvez pas aller vers une certaine décrispation si tous ces acteurs majeurs ne retournent pas au pays. Il faut tout faire. Je pense que c'est une question de responsabilité.
Monsieur Koumar, Gbagbo est un citoyen ivoirien. Pourquoi son retour doit-il faire l'objet de négociations?
Bon, vous savez qu'il est dans... Il a la haie. Il est dans un procès qui n'est pas totalement terminé. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de supputations autour. Mais en réalité, tout le monde sait les conditions qui doivent être réunies pour que son retour soit effectif. Il faut qu'au niveau de la haie, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit le plan de la République qui puisse mettre fin à ce procès. Une fois que ce procès sera terminé, je ne sais pas dans combien de temps, mais il faut tout faire pour qu'il puisse revenir au pays. Et ça, c'est notre position. C'est valable aussi pour les autres acteurs majeurs.
Tout à fait. Alors, Alexis, justement, quand on parle de retour de Laurent Gbagbo, il faut quand même qu'il soit en mesure s'il le souhaite, de revenir sur la scène politique, n'est-ce pas? Ce serait un retour sans condition, n'est-ce pas?
Oui, mais la condition, ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui l'ont posée. La condition, je crois que c'est la Cour pénale internationale qui, en acquittant Laurent Gbagbo en janvier 2019, a autorisé Laurent Gbagbo à quitter Bruxelles, mais surtout à ce que le pays de sa destination accepte de le recevoir. Bon, jusque-là, M. Laurent Gbagbo n'a jamais accepté d'aller dans un autre pays que le sien, c'est normal, c'est qui est évident, mais ce n'est pas n'importe qui. Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État, des conditions de sécurité qu'il faut envisager, des conditions de logement qu'il faut envisager. Il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte pour un retour sécurisé et si on veut surtout qu'il participe à l'élan de réconciliation. C'est vrai que Laurent Gbagbo le souhaite, mais c'est le vœu aussi des Ivoiriens de bénéficier de ce retour et non pas que ce retour soit encore un facteur de crispation. On l'a dit tout à l'heure que la remise de ces deux passeports au vu de bonnes perspectives, mais en réalité, si les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas précipiter les choses. Nous comprenons l'impatience de ses partisans, nous comprenons le séjour qui s'est prolongé pour lui depuis son acquittement, mais l'État a sa pratique, l'État a son administration. Je pense qu'il faut laisser le temps à l'administration, sans pouvoir exagérer tout de même, pour mettre les choses en place afin de recevoir M. Laurent Gbagbo.
Alors, M. Koma, il y a, au-delà du cas Gbagbo, il y a la question plus générale du retour des exilés, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Est-ce que vous travaillez sur cette question aussi?
Oui, bon, vous savez, les commentaires en politique, sinon, depuis quelques années, on constate un retour massif des exilés. À ma connaissance, le chef de l'État a demandé solennellement à tous les Ivoiriens qui sont en exil de rentrer. Et je pense que le HCR même aide à cela. Bon, jusque-là, il y a beaucoup qui sont rentrés. D'autres hésitent encore, bon, pour des raisons que moi j'ignore. À mon avis, il n'y a pas de problème à ce niveau. Peut-être pour ceux qui...
Kakabé avait annoncé... une visite au Ghana, n'est-ce pas, pour les rencontrer.
Oui, il y a eu plusieurs visites au Ghana. Madame la ministre de la Cohésion sociale a organisé des visites au Ghana. Elle est rentrée avec beaucoup d'exilés. Alors, en tout cas, à notre humble avis, il n'y a pas d'obstacle au retour des exilés. Alors, ceux qui sont venus, personne n'a été inquiété. Il y en a même qui ont commencé à travailler, qui ont retrouvé leur poste. Et il y en a même qui font encore de la politique. Donc, à notre âme, la vie, ça, ce n'est pas un problème.
Et vous, M. Tano, Alexis, la question plus générale des exilés?
Oui, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Et je pense que ce n'est pas suffisant, mais je pense qu'il faut continuer sur ce terrain, étant donné que il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Et la Constitution n'autorise pas les Ivoiriens d'être contraints à l'extérieur, en exil. Je pense que tant qu'il y a un seul Ivoirien qui est à l'extérieur contre son gré, il faut toujours œuvrer à ce qu'il rentre. Et les efforts qui ont été faits, ont été assez significatifs. Le retour de bon nombre d'exilés. Mais ce n'est pas suffisant. Comme je le dis tantôt, il y a encore des Ivoiriens à l'extérieur. Il faut faire en sorte que tout le monde rentre au bercail, pour que tout le monde participe à l'élan de réconciliation nationale. On parlait de Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo n'est pas le seul personnage, le seul élément fondamental. Si Laurent Gbagbo vient et que les autres sont à l'extérieur, je pense qu'on n'aura rien fait. Il faut faire en sorte que chacun trouve son séjour à l'extérieur désormais inutile pour qu'il rentre afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire.
D'ailleurs, on n'a pas parlé de Charles Blé Goudé également, qui est aussi une figure importante, peut-être.
Oui, absolument. Je pense que la question de Charles Blé Goudé est liée un peu à celle de M. Laurent Gbagbo. Si M. Laurent Gbagbo est accepté et qu'il revient en Côte d'Ivoire, je pense que le maintien de Charles Blé Goudé à l'extérieur n'aura plus son sens, ne se justifiera plus. Donc, je pense que si M. Laurent Gbagbo vient, M. Charles Blé Goudé pourra suivre. Peut-être même qu'ils pourront venir ensemble.
C'est votre avis aussi, M. Kouma?
Oui, comme je l'ai dit, il faut tenir compte de notre environnement culturel. Je pense que le retour d'un acteur politique majeur comme Laurent Gbagbo, ce serait un grand pas vers la réconciliation, vers l'apaisement, vers la décrispation du climat social. Et donc, nous appelons de tous nos voeux et nous souhaitons vraiment que tout soit mis en œuvre pour qu'il rentre chez lui en Côte d'Ivoire.
D'accord. Voilà. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis sur notre site voaafrique.com et à travers nos télépartenaires sur le continent. Je n'oublie pas toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.